France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. François Bayrou maintient sa version devant la commission d'enquête sur l'affaire Betarame. Il n'avait pas d'autres informations que par la presse. Alors qu'il était ministre de l'Éducation, nous irons à l'Assemblée dès le début de ce journal. La France va renvoyer plusieurs diplomates algériens. La réponse de Paris à l'expulsion de fonctionnaires français. La crise entre les deux pays s'intensifie et Boualem Sansal est toujours incarcéré en Algérie. Colère en Israël après les propos d'Emmanuel Macron sur Benjamin Netanyahou. L'offensive israélienne à Gaza est une honte, avait dit le chef de l'État. Il se range du côté du Hamas, lui répond le Premier ministre israélien. Vladimir Poutine ira-t-il à Istanbul demain négocier avec Volodymyr Zelensky? Le président russe reste silencieux malgré les pressions internationales, notamment américaines. Nous verrons cela avec notre correspondante en Turquie, Marie-Pierre Véraud. Cela fait une heure maintenant que François Bayrou est sommé de s'expliquer à l'Assemblée. Le Premier ministre est devant la commission d'enquête créée à la suite de l'affaire Betarame, ce scandale de violence physique et sexuelle au collège lycée Notre-Dame de Betarame dans les Pyrénées-Atlantiques. Scandale qui le touche intimement puisque l'ancien ministre de l'Éducation a scolarisé plusieurs de ses enfants dans cet établissement catholique réputé. Ses proches soulignent qu'il n'est pas l'objet de la commission d'enquête, laquelle porte sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous suivez cette audition très politique à l'Assemblée et François Bayrou, Rosalie, a commencé à se défendre.
Oui, tout de suite le décor est planté. Fatia Kelouachi est la présidente socialiste de cette commission d'enquête.
Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, vous êtes sous serment. Et nous attendons de vous la vérité.
François Bayrou lâche un discret, je le jure, et très vite, la tension monte sur la défensive. Le Premier ministre n'hésite pas à couper la présidente pour la corriger, s'exprimer et donner, sans qu'on ne le lui demande, son état d'esprit.
Le premier mot qui me vient quand je pense à cette audition, c'est « enfin ». Pour moi, cette audition est très importante.
Très importante pour les victimes, assure le Premier ministre qui dénonce l'instrumentalisation, les manœuvres, les attaques basses et brutales avant de laisser la parole à l'un des rapporteurs, l'insoumis Paul Vannier.
Le 11 février dernier, ici même à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré, je vous cite, « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais ». Monsieur le Premier ministre, maintenez-vous sous serment cette déclaration?
Monsieur Vannier, celui qui ment ce jour-là, le 11 février, ce n'est pas celui qui répond à la question, c'est celui qui pose la question, c'est-à-dire vous. Et donc, je maintiens, je n'ai eu pas d'autres informations comme ministre de l'Éducation nationale que par la presse, et je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée.
Et c'est pour l'instant sa ligne de défense. Aucune autre information, martèle le Premier ministre, qui n'hésite pas à critiquer cette commission et son fonctionnement, ce qui en inquiète certains dans son camp. L'un de ses proches soupire dans cette audition. Le meilleur ennemi de François Bayrou, c'est lui-même.
Rosalie Lafarge en direct du Palais Bourbon avec Julien Girard pour les moyens techniques. Lui ne s'est pas présenté devant une autre commission d'enquête parlementaire, celle sur l'organisation des élections. Lui, c'est le milliardaire catholique Pierre-Édouard Sterrin. Exilé fiscal en Belgique, l'homme d'affaires a fait fortune grâce aux smartbox, les coffrets cadeaux. Et aujourd'hui, il veut mettre son argent au service de ses idées de droite traditionnaliste. Le journal L'Humanité a révélé en juillet dernier la stratégie de Pierre-Édouard Sterrin. Faire gagner la droite radicale avec son projet Périclès, ce projet qui vise à préparer les candidats aux élections et à les financer. C'est pourquoi les députés souhaitent le questionner pour connaître ses intentions. Mélanie Kuzelevitch, bonsoir.
Bonsoir.
C'est la troisième fois que la commission convoque Pierre-Édouard Sterrin. Sans succès, Mélanie.
Oui, après une première convocation fin avril que Pierre-Édouard Sterrin décline, il est à nouveau appelé à se présenter le 6 mai dernier devant l'Assemblée. Le directeur de Périclès, son bras droit, Arnaud Rérol se rend bien devant les députés, mais pas l'homme d'affaires qui explique être à l'étranger. Il est finalement reconvoqué ce mercredi matin à 11h, mais à quelques heures de l'audition, il demande à être interrogé en visioconférence évoquant des raisons de sécurité. Demande refusée par la commission qui rappelle entre autres que des ministres viennent régulièrement à l'Assemblée et que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité. Les députés l'attendent donc en présentiel de pied ferme ce matin. Il fera finalement faux bond. Une absence déplorée par le président de la commission, le député macroniste Thomas Cazenave. Le rapporteur de la commission, l'insoumis Antoine Léaumont, lui, ne voit qu'une explication.
Je pense qu'il a peur. Je pense que M. Stérin utilise depuis maintenant plusieurs semaines en réalité des manœuvres dilatoires pour ne pas se présenter en commission. Il ne souhaite pas, en tout cas il essaye d'éviter de répondre pour l'instant aux questions que nous avons à lui poser. Je rappelle ce que dit la loi, c'est qu'une personne qui ne se présente pas devant une commission d'enquête qui a souhaité l'auditionner, c'est 7 500 € d'amende. Ça, je pense qu'il n'en a pas grand-chose à faire compte tenu de la fortune qu'il a, mais 2 ans d'emprisonnement.
C'est Pierre-Édouard Stérin qui avait pourtant choisi la date de son audition le même jour que celle de François Bayrou. Son absence est calculée, glisse un collaborateur parlementaire. Finalement, après concertation, les membres du bureau de la commission décident de le reconvoquer mardi prochain à 11h. Cette fois, s'il ne se présente pas, ils le signaleront au procureur de la République.
Explication signée Mélanie Kuzelevitch. C'est un procès hors norme qui touche à sa fin devant la cour criminelle de Vannes dans le Morbihan, celui de l'ancien chirurgien Joël Le Squarnec, 74 ans, jugé depuis le 24 février pour viol et agression sexuelle sur près de 300 victimes. La plupart étaient de jeunes patients du praticien, garçons ou filles. Joël Le Squarnec a reconnu les faits au cours des audiences. La cour criminelle va entendre d'ici la fin de la semaine les dernières victimes qui souhaitent s'exprimer. C'était le cas aujourd'hui avec cette mère et sa fille qui ont témoigné en visioconférence depuis Toulouse. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
Ma fille avait 7 ans quand elle a été opérée de l'appendicite par Monsieur Le Squarnec. Le deuxième jour, il m'a demandé de sortir de la chambre pour pratiquer un geste médical. Le souvenir reste ancré dans sa mémoire de mère, associée à la culpabilité de n'avoir pas su la protéger. Toutes les deux n'ont appris les faits que des années plus tard, quand les gendarmes ont contacté la jeune femme. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui avait cloché, glisse-t-elle, mais là, ça a été un grand choc. Visage rond et lisse, cheveux tirés en arrière, elle passe doucement sa main droite sur son ventre. Elle accouche dans un peu moins d'un mois. Une PMA, précise-t-elle, alors qu'il n'y avait aucune raison médicale pour que nous ne puissions avoir un enfant, mon mari et moi. L'expertise psychologique mentionne aussi un état de stress post-traumatique suite à la révélation des faits. Je voudrais tourner la page, mais je sais que j'aurai peur toute ma vie avec un rejet total de tout ce qui est médical. Elle figure dans les carnets de l'année 2008 de Joël Le Squarnec, dans lesquels l'ancien chirurgien décrivait avec précision ce qu'il avait infligé à ses jeunes patients. Elle est très mignonne, elle n'a que 7 ans. Quel délice! Joël Le Squarnec, qui durant l'instruction avait parlé d'une simple agression sexuelle, admet aujourd'hui un viol par pénétration digitale. Ce que j'ai fait est odieux, immonde. J'étais un être ignoble, ajoute-t-il, de la même voix éteinte. Je vous demande pardon. Sur l'écran de la salle d'audience, aucune des deux femmes n'a répondu.
Florence Turm depuis la cour criminelle de Vannes. Le verdict est attendu mercredi 28 mai. La crise franco-algérienne ne connaît aucun répit, elle semble même s'intensifier. Nouvel épisode aujourd'hui, la France va renvoyer des diplomates algériens en riposte à l'expulsion de fonctionnaires français en poste en Algérie. Décision injustifiée et injustifiable selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Depuis que Paris a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, la relation franco-algérienne n'a cessé de se dégrader. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est incarcéré en Algérie depuis 6 mois, et Alger refuse toujours de reprendre ses ressortissants sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Christian Chéneau, bonsoir.
Bonsoir.
Les autorités françaises attendent un geste de l'Algérie pour faire retomber la tension entre les deux pays, mais ce geste ne vient pas, Christian.
Oui, Jean-François, l'impasse est totale des deux côtés de la Méditerranée. Au Quai d'Orsay, on estime que la sortie de crise est très aléatoire et qu'à ce stade, il n'y a aucune visibilité pour un scénario d'apaisement. Un diplomate considère que c'est l'Algérie qui a pris la responsabilité de déclencher cette crise des expulsions de fonctionnaires et d'ajouter « Nous sommes revenus au point le plus bas de la relation franco-algérienne ». Résultat, toutes les coopérations sont suspendues, y compris les canaux sécuritaires. Le rythme de réadmission mensuelle par Alger des OQTF, les ressortissants algériens soumis à une obligation de quitter le territoire français, est aujourd'hui quasi nul, alors qu'il était de l'ordre d'une trentaine il y a seulement quelques semaines. Alors, Alger qui a durci l'octroi de visa pour les hommes d'affaires et les religieux français. De son côté, Paris dénonce une forme de boycott qui ne dit pas son nom contre les sociétés de l'Hexagone installées en Algérie. Le commerce bilatéral a diminué de 20% sur un an. La seule exception, c'est Total Energy, le patron du géant énergétique Patrick Pouyanné, qui était encore récemment en visite à Alger. Actuellement, les deux pays n'ont plus d'ambassadeurs qui ont été rappelés pour consultation. Alors, dans ces conditions, une reprise du dialogue est-elle malgré tout possible? La France attend un geste déclencheur de la part de l'Algérie qui pourrait être une intervention du président Tebboune ou encore une mesure humanitaire pour faire libérer l'écrivain Boualem Sansal.
Christian Chesneau de la rédaction internationale de Radio France. J'ajoute que la justice française a refusé aujourd'hui d'extrader vers l'Algérie un opposant kabyle réfugié en France, Axel Belabassi. Alger l'accuse d'avoir commis des actes terroristes, mais la cour d'appel de Paris estime que cette demande d'extradition est sans objet. Benjamin Netanyahou ne décolère pas après la petite phrase d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Ce que fait le gouvernement israélien à Gaza est inacceptable, c'est une honte, avait insisté le président français. Il a aussi dénoncé un drame humanitaire inacceptable alors qu'Israël a littéralement coupé les vivres à l'enclave palestinienne. Le premier ministre de l'État hébreu a vivement répliqué aujourd'hui sous la forme d'un communiqué. Thibault Lefèvre nous appelle de Jérusalem.
Sans concession ni mesure, Benjamin Netanyahou accuse le président français d'être aux côtés du Hamas. Son ministre de la Défense, Israël Katz, s'embraye. Il évoque le passé collaborationniste de la France et affirme que Paris n'a pas de leçon de morale à donner à Israël. Depuis un peu plus d'un mois, la tension monte. Depuis en fait qu'Emmanuel Macron a émis l'hypothèse de la reconnaissance de l'État de Palestine. Comme cet après-midi, Benjamin Netanyahou avait alors vigoureusement réagi et Israël menace désormais à bas bruit d'annexer les colonies de Cisjordanie si la France passe à l'acte. Gershon Baskin est un ancien négociateur israélien et un fervent défenseur de la solution à deux États.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou perd la tête. Le président Macron et la France sont de bons amis d'Israël. Le président a prouvé ces 19 derniers mois qu'il était un allié d'Israël. Il a été en contact avec toutes les familles d'otages françaises. Il a envoyé des avions pour défendre Israël quand le pays a été attaqué par l'Iran. Israël a besoin d'amis. Macron comprend ça, pas le premier ministre israélien.
Un Benjamin Netanyahou de plus en plus isolé sur la scène internationale et qui s'éloigne même de son allié toujours, les États-Unis. Donald Trump a notamment arrêté de consulter le premier ministre israélien sur les dossiers régionaux.
Thibault Lefèvre à Jérusalem, Israël qui continue à bombarder Gaza, au moins 80 morts aujourd'hui selon la défense civile palestinienne, dont une soixantaine dans des frappes sur le camp de Jabalia dans le nord de l'enclave. Un tournant dans la politique américaine au Proche-Orient, Donald Trump a annoncé hier la levée des sanctions américaines sur la Syrie, sanctions mises en place sous le régime Assad, renversées en décembre dernier. En visite en Arabie Saoudite, le président américain a même rencontré aujourd'hui le nouvel homme fort de Damas, le président par intérim Ahmad al-Sharaa. Aujourd'hui, Donald Trump veut lui donner sa chance pour redresser la Syrie. Et il affirme même qu'al-Sharaa serait prêt à normaliser ses relations avec Israël. Aucune confirmation ce soir de la part du dirigeant syrien. Y aura-t-il des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine demain à Istanbul? Rien n'est moins sûr ce soir, tant l'incertitude règne sur la tenue effective de cette réunion. Volodymyr Zelensky est prêt à se rendre en Turquie pour négocier directement avec Vladimir Poutine, mais la Russie refuse pour l'instant de répondre à la proposition du président ukrainien. Quant à Donald Trump, il est prêt lui aussi à se rendre à Istanbul, à condition que son homologue russe y soit aussi. Bonsoir Marie-Pierre Véro.
Bonsoir Stanislas.
En direct d'Istanbul, justement, ce soir, Marie-Pierre, la pression s'accentue de toutes parts sur Vladimir Poutine.
Oui, au point que l'on peut se demander si le chef du Kremlin ne regrette pas d'avoir lancé cette idée de négociation directe russo-ukrainienne à Istanbul le 15 mai. C'était pour contrer la proposition européenne d'une trêve de 30 jours. Depuis, Volodymyr Zelensky, vous le disiez, l'a pris au mot en proposant d'être lui-même sur place et en mettant au défi le chef du Kremlin de faire de même. Toujours aucune fumée blanche du côté de Moscou, mais c'est vrai que la pression monte, avec un Donald Trump qui n'exclut pas de faire un crochet par la Turquie si Poutine vient, malgré, dit-il, mon emploi du temps chargé, tandis que Lula, le président brésilien, veut lui aussi convaincre son camarade Poutine de faire le voyage. Ce dernier déteste la pression et entend toujours gagner du temps, mais il va devoir très vite clarifier la composition de la délégation russe. D'après le journal Commerçant, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ne sera pas à Istanbul. Kiev adaptera donc son format pour avoir des interlocuteurs de même rang. Côté américain, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui pourrait, dit Donald Trump, participer aux discussions sur la guerre en Ukraine. Mais il parle de vendredi et vient d'annoncer depuis le Qatar que l'on peut s'attendre à de très bonnes nouvelles sur ce dossier russo-ukrainien aujourd'hui, demain ou vendredi. Bref, le flou entoure toujours les contours et le format de telles négociations directes. Elles seraient les premières depuis le précédent échec. C'était à Istanbul déjà, au début de la guerre en 2022. En tout cas, il y en a un qui se frotte les mains. C'est le président turc Erdogan, lui qui se veut faiseur de paix et qui a remis la Turquie sur la carte de la géopolitique mondiale.
Merci Marie-Pierre Véraud, en direct d'Istanbul. Retour à l'actualité française avec cette information qui est tombée il y a une heure environ. Delphine Ernotte a été reconduite à la tête de France Télévisions pour un troisième mandat de 5 ans par l'ARCOM. Pierre Repère, bonsoir.
Bonsoir.
Delphine Ernotte a un projet bien défini. La dirigeante veut repenser l'organisation du groupe public autour de la plateforme numérique France.tv.
Oui, Delphine Ernotte était donnée largement favorite face aux 3 autres candidats et c'est donc le choix de la continuité qu'a fait l'ARCOM. Il faut dire que dans un bilan publié en janvier, l'autorité de régulation avait déjà dressé un constat très positif pour cet ex-ingénieur de 58 ans passé par Centrale. L'ARCOM soulignait des audiences jamais enregistrées auparavant pour France TV et ce, malgré un contexte concurrentiel décuplé. Forte de ce bilan, Delphine Ernotte avait donc mis en avant lors de son audition sa volonté de mettre l'accent sur le numérique face à, je cite, « l'accélération folle des mutations technologiques ». France.tv est déjà notre première chaîne à a-t-elle appuyé, arguant qu'il fallait arrêter de penser les programmes pour le linéaire, c'est-à-dire les chaînes traditionnelles, et mettre le numérique en priorité. La présidente de France Télévisions a également plaidé pour une relance de la chaîne France Info, dont les résultats se font attendre, a-t-elle admis, grâce à une nouvelle grille. Avec le rapprochement entre télévision et radio publique, à travers France Info, mais aussi la fusion des réseaux France 3 et France Bleu en une seule plateforme nommée ICI, Delphine Ernotte a démontré être une fervente partisane de la holding, souhaitée par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Ce troisième mandat à la tête de France Télévisions s'annonce donc d'ores et déjà pour elle comme un véritable tremplin. Avec ce dernier, Delphine Ernotte brise non seulement le record de longévité à la tête de France TV, mais se présente également comme la prétendante logique à la présidence de la holding, si elle venait à exister.
Éclairage signé Pierre Repère. Tom Cruise était à Cannes aujourd'hui pour présenter le 8e volet de sa saga Mission Impossible. La superstar hollywoodienne n'est pas en compétition dans cette 78e édition du festival. Il est surtout là pour créer l'événement médiatique au lendemain d'une cérémonie d'ouverture très politique. On retrouve à Cannes Antoine Guillot, producteur de Plan Large sur France Culture. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Stanislas.
Une cérémonie d'ouverture très politique où il a été question de Gaza, de l'Ukraine, de MeToo. Et pourtant Antoine, la direction du festival a rédigé une charte censée interdire aux festivaliers de parler politique.
Oui, paradoxe, hein, mais très politique. En effet, cette cérémonie d'ouverture, Stanislas, en contradiction apparente avec cette nouvelle charte qui proscrit toute manifestation de la sorte, mais c'était sans doute la condition pour ne pas paraître totalement insensible aux malheurs du monde, tout en évitant de heurter, et là je cite la charte, les diverses sensibilités des participants. La blague du très enjoué animateur de la soirée, Laurent Lafitte, sur ce qu'acteurs et actrices ont à perdre en employabilité à prendre la parole, planait ainsi comme une ombre sur celle de la présidente du jury, Juliette Binoche, agglomérant dans son discours toutes les victimes des violences contemporaines sans trop se mouiller sur qui en est responsable. Heureusement qu'il y eut Robert De Niro, récipiendaire d'une palme d'or d'honneur des mains d'un très ému Leonardo DiCaprio et opposant farouche au président Donald Trump, traité par lui de philistin, pour appeler un fasciste et un autocrate pour qui tout artiste est une menace. Seuls les audacieux devraient faire du cinéma, a dit encore Laurent Lafitte, citant l'immense cinéaste américain Frank Capra. On regrette à ce titre, pour le coup, le manque total d'audace, pour ne pas dire d'ambition cinématographique, du film d'ouverture qui a succédé à cette cérémonie rondement expédiée. Partir un jour, premier long métrage d'une réalisatrice française, Amélie Bonin, est une sorte de version régionaliste et très plan-plan, pour ne pas dire franchement télévisuel, du On connaît la chanson d'Alain René, avec comme horizon et recette unanimiste la télé-réalité des The Voice et autre Top Chef, et une playlist de karaoké franchouillard qui provoquera certes fatalement sur un titre ou deux un souvenir Madeleine dans le public hexagonal, mais alors qui pour le coup a laissé dubitatif plus d'un spectateur étranger.
Antoine, à propos d'audace, il y a le premier film en compétition, Sound of Falling, le bruit de la chute de la réalisatrice allemande Mascha Schilinski.
Oui, et là, on est très exactement dans ce qu'on attend d'un festival comme Cannes. La découverte d'une cinéaste surgit de nulle part. Son premier film n'est jamais sorti en France. Elle accède dès son second à la compétition pour un film d'une folle ambition, mais raconté 100 ans d'histoire allemande via les histoires tressées de quatre jeunes filles qui ont vécu dans la même ferme à l'est de l'Allemagne et dont les destins se répondent en écho et en rime, un peu comme si toutes les saisons de la série Heimat d'Edgar Wright s'interpénétraient dans un seul film de 2h30, mais selon un point de vue féminin et fantomatique. Grand film très sensoriel et sensuel sur le regard interdit ou subi, sur la mémoire corporelle et la transmission intergénérationnelle de la souffrance et des traumatismes dus aux violences faites aux femmes. Sound of Falling met la barre très très haut dès ce début de compétition.
Antoine Guillot, en direct de Cannes, on vous retrouve demain et tous les soirs dans le journal de 18h pendant la durée du festival. Un mot du temps, demain, le ciel restera orageux sur le sud-ouest, notamment près des Pyrénées. Ailleurs, le soleil s'imposera au fil de la journée, malgré des nuages bas au nord de la Seine. Demain matin, il fera entre 6 et 11 degrés en général. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 14 et 28 degrés des côtes normandes à la Provence. C'est la fin de ce journal.